On poursuit dans la série « Choisir la reconnaissance » ce matin. Le verset thème que j'ai choisi, je dis « on a choisi, mais c'est moi qui l'ai choisi », puis je vous l'impose. « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5, 20. » Dans la version sommaire, « à tout moment » et pour toute chose, vous remercieriez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait que je vous encourage à mémoriser, à méditer ce verset-là. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose au nom du Seigneur Jésus. C'est simple, mais combien profond, combien profond. Quand on médite un verset-là, on prend un mot à la fois, puis on réfléchit. Rendez grâce, c'est quoi que ça veut dire? Pour toute chose, continuellement. Tu sais, c'est comme ça qu'on médite un verset. Fait que je vous encourage à méditer, puis à mémoriser ce beau verset. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toute chose au nom du Seigneur Jésus-Christ. On a vu la semaine dernière que la reconnaissance glorifie Dieu, elle devrait donc remplir la vie de ses enfants, car elle constitue la réponse sincère d'un cœur touché par sa bonté. Parce que la reconnaissance naît d'une constatation, d'une conviction que tout est un don, est un cadeau de Dieu. Tout dans notre vie est un cadeau, une grâce. Et donc, la reconnaissance devrait remplir mon cœur. Qui, à part les chrétiens, devrait être le plus reconnaissant sur la face de cette terre? Hein? Qui devrait être connu pour avoir des cœurs reconnaissants si ce n'est pas les enfants de Dieu? Hein? Si ce n'est pas les enfants de Dieu, qui va être reconnaissant? Donc, cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est parce que je veux ressembler à Jésus-Christ. Je disais la semaine dernière, et je le répète ce matin, le plus grand bien que Dieu veut pour toi dans ta vie, c'est quoi? Ressembler à Jésus, de te transformer. Puis on l'a vu dans la série sur l'espérance, que à part d'être ressuscité avec Christ, avoir un nouveau corps, régner avec Christ, où nous allons ressembler à Christ. Paul dit, car nous le verrons tel qu'il est. Ressembler à Jésus-Christ, là, c'est le but éternel de Dieu pour toi. Puis si ce n'est pas ton but dans la vie, ça te prend un réalignement, là. Il y a quelque chose qui cloche, là. Ressembler à Jésus-Christ, ça devrait réjouir ton cœur parce que c'est l'être le plus merveilleux au monde. Puis qu'est-ce que Jésus avait comme attitude sur la terre? Il avait une attitude de reconnaissance en toutes choses. En toutes choses, reconnaissant pour ce que Dieu le Père lui donnait. Le fondement de la reconnaissance, c'est la grâce de Dieu. C'est la réalisation que tout, absolument tout, est un cadeau qui nous vient de Dieu, tel que si bien exprimé par le verset dans Jacques 1, 17. « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Quelqu'un m'a demandé la semaine dernière, après le culte, est-ce que Dieu est vraiment toujours bienveillant à notre égard? Qu'est-ce qui se passe quand on désobéit? Est-ce que Dieu demeure bienveillant? Oui. La Bible nous révèle, entre autres, dans ce verset-là, que Dieu est la source de toutes bonnes choses dans ta vie et son attitude est toujours bienveillant envers toi, son enfant. Il n'a pas de saut d'humeur. Il ne devient pas malveillant selon les journées, puisque Christ a pris sur lui toute la malédiction qui te revenait sur la croix et qui ne reste que bénédiction pour toi. Maintenant, si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, puisqu'il faut le devenir en venant à Jésus-Christ, alors la Bible dit que la colère de Dieu repose sur toi, mais il ne la déverse pas encore, souhaitant que sa bonté à ton égard te pousse à la repentance. C'est ça le message de l'Évangile. Dieu dit, vous êtes tous pécheurs, vous êtes tous révoltés contre moi, vous êtes tous sous ma colère repose sur vous. J'envoie Jésus pour prendre la colère pour vous. Maintenant, je vous invite à venir à Jésus et lui va prendre la colère, lui va prendre la malédiction et il restera quoi après? Juste bénédiction. Juste bénédiction. Donc, même dans ça, on voit la bienveillance de Dieu. Paul nous dit dans Romains, « Ne réalises-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? » Dieu dit, « Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. » Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Fait que même là-dedans, on voit dans le jugement juste de Dieu que Dieu est bienveillant. Dieu est bienveillant. Son attitude est toujours bienveillante. Et il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça veut dire que Dieu demeure toujours bienveillant. Éventuellement, il faut qu'il juge le péché, parce que le péché détruit. Et c'est mal. Et Dieu, si tu restes attaché à ton péché, ben tu vas être détruit avec, malheureusement. Mais Dieu ne veut pas ça. Il veut ta repentance. Il souhaite que sa bonté à ton égard te pousse à la repentance, à te détourner de ta vie sans lui et à le reconnaître comme sauveur et maître de ta vie. On a également vu la semaine dernière que si tu veux ressembler à Jésus, alors la reconnaissance deviendra pour toi un mode de vie. Cultiver la reconnaissance. Cette année, on arrive d'un voyage en Europe, Lorraine et moi, et j'étais en train de lire le livre « Choisir la reconnaissance sur le voyage ». Et j'avais comme but de cultiver la reconnaissance sur le voyage. Et ça a été un défi par moment, mais surtout quand j'ai pogné la COVID. Mais, gloire à Dieu, je pense que par sa grâce, j'ai cultivé la reconnaissance. Ça n'a pas toujours été le cas. Je vais en parler dans un autre voyage vélo tantôt. Mais ce matin, avant d'aller dans le sujet qui est la source et les dangers de l'ingratitude, je vous encourage à lire avec moi ces quelques versets qui nous encouragent à la reconnaissance. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, sa reconnaissance, me glorifie. » Wow! Tu glorifies Dieu dans ta vie? Bien, la reconnaissance doit faire partie intégrante de ta vie. Ça doit exuder de tes pores même. Ô Dieu, je veux accomplir les vœux que j'ai faits et je veux t'offrir ma reconnaissance, car tu m'as sauvé la vie. Tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, dans la lumière de la vie. Psaume 100, versets 4 et 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, la reconnaissance, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Il y a quelques années, je me suis rendu compte que Dieu avait été bon et fidèle envers mes parents, envers mes grands-parents, et même plusieurs ancêtres que je n'ai jamais eu le privilège de connaître. Il a été bon et fidèle envers moi toute ma vie, et envers mes enfants, et maintenant envers mes petits-enfants. Wow! C'est ça que le verset dit. L'autre jour, j'étais dans un état semi-réveillé, et une question m'est tout à coup venue à l'esprit. Si tu pouvais voyager dans le temps et retourner te voir lorsque tu étais encore jeune enfant, que dirais-tu au jeune enfant qui s'appelait Brian? Hein? C'est pourquoi cette question-là? Je ne sais pas d'où elle est venue. Bien, je sais, c'est venu du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu lui dirais à ce petit Brian-là, là? Maintenant, avec toute l'expérience de tes 61, bientôt 62 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Après réflexion, je me suis dit, je dirais au jeune Brian, « Brian, ne t'en fais pas pour ta vie. Le Seigneur Dieu veille sur toi et tu pourras toujours compter sur sa bonté et sa fidélité. » Wow! C'est vrai. Que sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Je veux donc cultiver la reconnaissance dans mon cœur toute ma vie durant. À travers cette série, on va voir beaucoup d'autres versets qui nous encouragent à exprimer notre reconnaissance à ce Dieu qui est d'une bonté inégalée. Et Dieu n'est pas intéressé, je veux dire ça avant de l'oublier, là. Je ne savais pas trop où insérer ça, mais je vais l'insérer là, parce que je veux pas l'oublier. Dieu n'est pas intéressé à une reconnaissance mécanique. Ou ce que, ah oui, ça va mal dans ta vie, mais il faut que tu loues le Seigneur, là. Il faut que tu dises merci à Dieu, là. Ah oui. Ah OK, merci Seigneur, merci, merci. Non, ça n'a pas d'allure, là. Mais on a déjà enseigné ça, malheureusement. Hein? C'est vrai, hein? Non, Dieu n'est pas intéressé à une reconnaissance mécanique qui n'a aucune valeur. Dieu dit dans la parole, « Ce peuple s'approche de moi, de ses lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Fait que Dieu, qu'est-ce qui s'intéresse? Qu'est-ce qui l'intéresse? Son cœur. C'est le cœur. Fait que si tu n'es pas capable de rendre grâce dans une certaine situation, mais tu sais que c'est ça que Dieu voudrait, mais c'est pas de te forcer, là. Puis de te mettre un fardeau, de mettre un fardeau sur les autres. « Hey, rends grâce à Dieu, rends grâce à Way. » Non, c'est pas ça, OK? J'insère ça là, en passant. C'est une réponse du cœur que Dieu recherche. Et oui, Dieu veut ça. Dieu nous encourage à ça. Et on va revenir tantôt sur des points comme ça. L'ingratitude. J'aimerais regarder à l'ingratitude qui est le contraire, hein? De la reconnaissance à travers l'expérience de la nation d'Israël dans le désert. Fait que tournez avec moi dans Exode. On va retourner dans l'histoire du peuple de Dieu, Israël, que Dieu avait délivré de l'esclavage et de la dure oppression des Égyptiens pour les amener dans un pays magnifique et riche en ressources naturelles. Et nous allons considérer quelques épisodes à la traversée du désert qui a duré beaucoup plus longtemps que prévu à l'origine par Dieu. Donc, dans Exode chapitre 16, versets 1 à 8, on lit ceci. « Toute la communauté des Israélites quitta Élim, et le 15e jour du second mois qui suivit leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert de Sin, qui s'étend entre Élim et Sinaï. Là, dans le désert, toute l'assemblée des Israélites se plaignit de Moïse et d'Aaron, et ils leur dirent, « Ah! Pourquoi l'Éternel nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant les marmites pleines de viande et où nous mangions du pain à satiété? Tandis qu'à présent, vous nous avez fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. » Alors l'Éternel dit à Moïse, « Regarde, je vais faire pleuvoir du ciel sur vous du pain. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la ration nécessaire. Je le mettrai à l'épreuve de la sorte et je verrai s'il se conforme ou non à mes instructions. Le 6e jour, il y en aura deux fois plus que les autres jours à ramasser et à prêter. Parce que le 7e jour, jour de repos. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous saurez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte et demain matin, vous verrez se manifester la gloire de l'Éternel, car il vous a entendu vous plaindre de lui. » L'Éternel. Car qui sommes-nous pour que vous vous plaigniez de nous? Oui, dit-il, vous le saurez ce soir, quand l'Éternel vous donnera de la viande à manger et demain lorsque vous donnera du pain à satiété, car l'Éternel a entendu les plaintes que vous avez formulées contre lui. Nous, qui sommes-nous? Ce n'est pas de nous que vous vous êtes plaints, mais de l'Éternel. Prions. Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, on se courbe devant toi ce matin, Père, pour justement s'humilier devant ta sainte présence, te révérer, Père, reconnaître que tu es le seul Dieu, digne de louange, d'honneur, de reconnaissance et de gloire. Oui, Seigneur, viens manifester ta gloire ce matin à travers ta sainte parole. Seigneur Jésus, bon berger, on te demande de nous parler ce matin par ton esprit de ta parole. Viens, Saint-Esprit, nous conduire dans les sentiers de la justice, les sentiers de la vérité. Révèle-nous la pensée intime du Père pour nous ce matin. On veut entendre ta voix. On t'invite maintenant à venir nous parler chacun dans notre cœur pour la gloire de Christ, notre Sauveur. Amen. Tournez maintenant encore avec moi plus loin dans Nombre, deux livres plus loin dans Nombre. On a plus de détails sur ce même épisode qui est mentionné dans Exode 16, dans Nombre 11, verset 1. Un jour, puis ce qu'on vient de lire, c'est que ça s'est passé un mois et demi seulement après la sortie de l'Égypte, un mois et demi seulement. Un jour, le peuple adressa d'amères plaintes à l'Éternel. Lorsqu'il les entendit, il se mit en colère et déchaîna la foudre contre eux. Déjà, le feu dévorait une extrémité du camp. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. On appelait ce lieu Tabéra parce que le feu de l'Éternel s'était embrasé contre le peuple. Il y avait parmi le peuple un ramassis d'individus qui furent saisis de toutes sortes de désirs, de convoitises. Alors les Israélites, à leur tour, recommencèrent à pleurer en disant « Ah, si seulement nous pouvions manger de la viande! Nous regrettons le poisson qu'on mangeait pour rien en Égypte, et les concombres, et les melons, et les poireaux, et les oignons, et l'ail. À présent, nous dépérissons. Nous sommes privés de tout, rien que de la manne, toujours de la manne. » La manne ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était transparente comme de la résine de bdellium. Le peuple se dispersait pour la ramasser, puis on la broyait à la meule, on la pilait au mortier et on la faisait cuire dans les pots pour en faire des galettes qui avaient un goût de gâteau de miel. Elle se déposait la nuit sur le camp avec la rosée. Chaque famille se lamentait à l'entrée de sa tente. Moïse entendait le peuple pleurer. Il s'encourage là-dedans. Et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Il dit à l'Éternel, « Pourquoi fais-tu du mal à ton serviteur? Pourquoi ne m'accordes-tu pas ta faveur? Comment peux-tu m'imposer la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte le bébé qu'elle allait, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses ancêtres? Où trouverai-je de la viande pour distribuer à tous ces gens qui pleurent autour de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi et je n'ai plus à contempler mon malheur. » Bon, on saute au verset 31. Au verset 31, « Un vent envoyé par l'Éternel entraîna des cailles par-dessus la mer et les fit s'abattre autour du camp. Sur un rayon d'une journée de marche, elle recouvrait le sol jusqu'à un mètre de hauteur. Le peuple fut debout toute cette journée et toute la nuit et encore tout le lendemain pour ramasser les cailles. Personne n'en prit moins qu'une tonne. Ils les étalèrent tout autour du camp. » Ils avaient encore la viande à la bouche quand la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et le frappa d'une grande épidémie. On appela ce endroit Kibroth Hattava, tombeau de la convoitise, car c'est là qu'on enterra beaucoup de gens qui avaient cédé à la convoitise. Le peuple a faim. Le peuple se plaint. Le peuple murmure contre Moïse et Aaron, disant préférer d'être mort en Égypte que de vivre dans ces conditions. Qu'on va s'admettre, était quand même très difficile. Hein? Qui aurait voulu traverser le désert avec le peuple d'Égypte? Levez la main. Non. Moi et ma femme, on aime bien le camping, mais le camping sauvage, c'est pas mal fini pour nous. Là, on est rendu à l'autre étape. Si on part en camping, ça va être hors de terre. Il faut l'avouer, là, c'était des conditions difficiles. La suite, le peuple se plaint de la manne que Dieu envoie la manne. Mais après ça, il se plaint de la manne, souhaitant avoir un menu plus varié. Réponse de Dieu, 1, électrochoc, la foudre. Suivi de deux, il leur donne ce qu'ils désirent tant, de la viande et encore de la viande. Une cure par surexposition, n'est-ce pas? Ça a déjà été une technique pour guérir quelqu'un de quelque chose, une dépendance. OK, on va t'en donner, tiens. Tu veux fumer la cigarette? Fume-en. Mets un autre dans ta bouche. Un autre. Tiens, on va te faire fumer toute la journée, sans arrêt, puis tu viens écœuré, puis tu n'en veux plus. Ça marche. Dans certaines choses, ça marche. Ça coûte cher, oui. Un autre épisode, Nombre 12, le prochain verset. Moïse avait épousé une femme éthiopienne. Myriam et Aaron se mirent à le critiquer à cause de cela et dirent, « Est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par notre intermédiaire? » L'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. » Ils y allèrent. L'Éternel descendit dans la colonne de fumée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam et tous deux s'avancèrent. Il dit, « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui ou dans un rêve que je lui parlerai, mais ces choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse? » L'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. Et à peine la nuée avait-elle quitté la tente que Myriam se trouva couverte d'une lèpre blanche comme la neige. Quand Aaron se tourna vers Myriam, il vit qu'elle était lépreuse. Alors il dit à Moïse, « De grâce, mon Seigneur, ne nous tiens pas rigueur du péché que nous avons commis dans un moment de folie. » Donc, ici, on voit que Aaron et Myriam se permettent de se plaindre, de critiquer Moïse, le choix de sa femme. Et je vous fais noter que ce n'était pas une question de péché ou d'inconduite, c'est juste que ça ne faisait pas leur affaire, qu'ils avaient épousé une femme éthiopienne, et ils se mettent à le critiquer et à se dire, « Bien, Moïse, là, dans le fond, c'est qui ça? Dieu nous parle autant qu'à lui, là. » Fait qu'à le descendre d'une coche. On va descendre Moïse d'une coche, là. Il est trop haut, là. On va le mettre plus à notre niveau. Puis s'il est à notre niveau, bien, on a le droit de regard sur lui, là. On a le droit de le critiquer. On voit ici que quand on se plaint contre les leaders que Dieu s'est choisi, ça revient à se plaindre contre Dieu lui-même. Hein? Moïse et Aaron, ils ont dit, regardez, vous vous plaignez contre nous, mais c'est pas contre nous, là, c'est qui? C'est nous, on décide de rien, c'est Dieu. OK? Vous vous êtes plaint contre Dieu. Il faut faire très attention à ce dont tu te plains à Dieu. Critiquer les leaders parce qu'ils ont pris des décisions qui ne font pas ton affaire ou que tu penses ne sont pas bonnes décisions. On ne parle pas ici de questions de péché. Ça revient à critiquer Dieu qui les a choisis. Dieu dit, comment vous avez osé critiquer mon serviteur? Mon serviteur. C'est grave. C'est grave quand on se prend au leader que Dieu s'est choisi. Maintenant, il faut être confiant que c'est Dieu qui les a choisis. Mais quand c'est évident qu'ils occupent un poste que Dieu les a placés là, se plaindre et critiquer ces leaders-là revient à se plaindre contre Dieu et critiquer Dieu, et Dieu prend ça très au sérieux. Dieu dit, « Comment vous osez critiquer mon serviteur, qui est mon représentant, pour une décision qui ne fait pas votre affaire et qui ne vous regarde même pas? » Résultat, Myriam est frappée de lèpre, maladie incurable et honteuse à l'époque. Aaron est épargné. Pourquoi Dieu n'a pas frappé Aaron de la lèpre aussi, je ne sais pas. C'est peut-être en raison de sa position. Mais ce n'est pas parce que Dieu est chauviniste. Aaron, il est autant responsable et il le reconnaît. Et il dit à Moïse, pardonne-nous. Parce que la honte de sa sœur est la sienne. Et c'est pourquoi il implore le pardon de Moïse pour les deux. Nombre 14, chapitre 14, 1 à 4. « Alors toute la communauté se souleva, se mit à pousser de grands cris, et le peuple passa toute la nuit à pleurer. » Hey, 3 millions de personnes à pleurer. Et ça devait-tu être un concert épouvantable. Tous les Israélites critiquèrent Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, « Si seulement nous étions morts en Égypte, ou du moins dans ce désert, pourquoi l'Éternel veut-il nous mener dans ce pays-là pour nous y faire massacrer par l'épée, tandis que nos femmes et nos enfants deviendront la proie de nos ennemis? Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons-nous un chef et retournons en Égypte. » Le contexte, c'est que Dieu avait dit à Moïse, « Envoie des espions dans le pays que je vais vous donner. » Les espions sont allés, sont revenus, ils ont dit, « C'est impossible, on ne peut pas prendre ce pays-là, c'est des géants, il y a des villes fortifiées. » Et puis, le résultat, la conclusion, c'est que Dieu veut notre mal. Dieu veut, c'est un projet suicidaire, c'est une mission de suicide que Dieu nous envoie de prendre ce pays-là. Verset 5. « Moïse et Aaron tombèrent face contre terre en présence de toute l'assemblée réunie des Israélites. » On poursuit un petit peu plus loin. Verset 11. « L'Éternel dit à Moïse, « Combien de temps ce peuple me méprisera-t-il encore? Quand cessera-t-il de me refuser sa confiance, alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires? Je veux les frapper de la peste pour les exterminer, puis je formerai à partir de toi un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. » Une des choses qu'on va voir, c'est que l'ingratitude nous rend aveugles aux bontés de Dieu. Quand tu commences à focusser sur quelque chose qui ne fait pas ton affaire, là, ça prend toute la place dans ton cœur. Et c'est ce que Dieu dit ici. Il dit « Combien de temps je vais supporter ce peuple alors que j'ai produit au milieu d'eux tant de manifestations extraordinaires. J'ai fait tant de choses de bon pour eux. » Non, ils ne voient plus rien de ça. Là, Dieu, tu nous envoies dans une mission suicidaire, puis on veut retourner en Égypte. Pourquoi on ne serait pas mort tout simplement en Égypte ou dans ce désert? Fait que là, Dieu est en colère, et Dieu dit à Moïse qu'il a l'intention de frapper le peuple, de l'exterminer, « Et puis je formerai à partir de toi, Moïse, un peuple plus nombreux et plus puissant. » Et là, Moïse, c'est comme si Dieu dit, « Tasse-toi, laisse-moi faire, j'en ai assez de ces ingrats, je vais les exterminer, faire un nouveau peuple à partir de tes descendants. » Mais Moïse, un leader rempli de grâce et de bonté, tombe sur le visage, demande à Dieu de pardonner encore une fois. Et Dieu répond que oui, il va pardonner. Mais les cadavres de tous les hommes de cette génération, de 20 ans et au-dessus, vont tomber dans le désert pendant 40 ans. Ils vont tournoyer en rond dans le désert, jusqu'à temps que chacun de ces hommes-là périsse. Wow! J'ai fait un petit calcul une fois. Exode 38 nous indique qu'on avait recensé 603 550 hommes de 20 ans et plus parmi le peuple. Ça veut dire que sur une période de 40 ans, il en mourut en moyenne au-dessus de 15 000 hommes par année, ou 1257 par mois, ou 290 par semaine, ou 41 par jour. 41 morts par jour, 290 par semaine, ça en fait des services funéraires. Hein? Imagine-toi, ça a été comme des mouches, là. Des mouches. Et on pourrait continuer une bonne partie de la journée à regarder tous les passages durant cette traversée du désert où le peuple s'est plaint d'une manière ou d'une autre, ou s'est rebellé d'une manière ou d'une autre contre Moïse et Aaron et Dieu par le fait même. Le moindre qu'on puisse dire, c'est qu'à la lecture de tous ces événements-là, on constate que Dieu déteste l'ingratitude et qu'il le prend très au sérieux. En fait, la Bible nous dit que c'est un péché grave. Comme on l'a vu la semaine dernière dans Romains 1, versets 18 à 21. « Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté, car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre honneur qu'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ça provoque la colère de Dieu. Et c'est une colère juste. Colère juste. Qui d'entre vous tolérerait qu'un enfant que vous élevez, à qui vous donnez toutes choses, la vie, la nourriture, les vêtements, les jouets, qui tolérerait ici un enfant qui serait totalement ingrat et qui ferait juste se plaindre? Absence totale de reconnaissance. Il y en a-tu qui tolérerait ça? Ben non, vous ne tolérerez pas ça. C'est pas normal, c'est pas juste. C'est normal qu'un enfant soit reconnaissant pour ce qu'il reçoit, pas vrai? C'est normal qu'on enseigne à nos enfants d'être reconnaissants et d'honorer leurs parents. C'est normal, c'est juste, c'est bon. C'est bon pour eux aussi. C'est pas bon de laisser un enfant toujours recevoir, puis jamais dire merci ou d'apprécier ou quoi que ce soit, ou toujours d'en vouloir plus. C'est pas bon pour l'enfant, on sait ce que ça va faire. Ça va faire un enfant qui est gâté. Un enfant qui va avoir beaucoup de misère dans la vie, parce qu'il n'y aura pas ce qu'il veut tout le temps. Impossible. Alors, Dieu, qui nous a tout donné, qui a tout créé, qui nous a donné la vie, comment ne pas lui exprimer une reconnaissance? Mais Dieu dit que l'humanité, dans son entier, refuse d'honorer, refuse, comme des enfants gâtés, de lui donner reconnaissance. Et qu'est-ce que ça fait? Ça provoque sa colère. Sa colère, comme on disait tantôt, sa colère repose sur l'humanité. Mais ce n'est pas son désir de juger l'humanité. C'est pour ça qu'il envoie Jésus pour prendre le jugement pour toi. Mais il faut choisir Jésus. Donc, c'est un péché grave. Paul dit, en écrivant à Timothée, il y a 2000 ans, il lui dit ceci. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. OK? Pourquoi? Pourquoi les temps vont être difficiles? Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leurs passions et enflés d'orgueil, ils sont prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que de Dieu. » Et au milieu de cette liste-là, on a le mot, quoi? Ingrat. L'ingratitude est plantée là, au milieu de tous les autres péchés que Dieu nomme, qui vont caractériser l'humanité de plus en plus là, alors qu'on s'approche de la fin. L'ingratitude. Dieu prend ça très, très, très au sérieux. Paul inscrit l'ingratitude au sein de la liste des fautes graves qui caractériseront de plus en plus l'humanité séparée de Dieu qui s'approche de sa fin. Et ici, on perçoit la source de l'ingratitude. C'est quoi la source de l'ingratitude? C'est nul autre que l'orgueil dans le cœur humain. Un grand prédicateur américain du 19e siècle a dit « Un esprit d'humilité est la terre fertile d'où jaillit la reconnaissance. Un homme orgueilleux est rarement reconnaissant car il ne pense jamais avoir reçu autant qu'il le méritait. » Voyez-vous? Le lien entre l'orgueil et l'ingratitude. La source, on le voit, c'est l'orgueil. Cette attitude que je mérite mieux, que je suis important, plus important que les autres, plus capable que les autres, plus intelligent. Tout le monde devrait le reconnaître. Tout le monde devrait se plier à moi et à mes quatre volontés. Tout le monde devrait me donner ce que je veux, incluant Dieu. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui est à la source de l'ingratitude. Et l'humilité à la source de la reconnaissance. Si l'humilité est la terre fertile d'où jaillit la reconnaissance, l'orgueil, tant qu'à lui, est la terre inculte d'où jaillit l'ingratitude. Et attention, parce que l'orgueil, on peut s'imaginer qu'on n'est pas orgueilleux. Hein? Ben non, moi je ne suis pas orgueilleux. Mais, attention, ça peut être quelque chose de très spécifique à un certain domaine de ta vie ou dans certaines conditions. En général, peut-être que tu ne te considères pas comme une personne orgueilleuse. Mais peut-être que dans un domaine précis ou dans certaines conditions, tu l'es. Par exemple, tu te dis « moi, je ne suis pas une personne orgueilleuse ». Mais dès que tu te retrouves dans une cuisine avec d'autres, watch out! Tu imposes ta façon de faire aux autres, tu ne tolères pas que les autres te disent quoi faire, parce que dans ce domaine-là, tu es hot. Tu as beaucoup d'expérience, tu t'es démarqué par le passé, donc tu es orgueilleux dans ce domaine-là. Et puis, la preuve, c'est que si les autres ne font pas comme tu veux, ou si ça ne tourne pas comme tu voulais, tu deviens irrité, et peut-être que tu vas dire des choses que tu vas regretter plus tard. Peut-être aussi que tu vas te retirer en claquant la porte. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi-même, tu te dis que tu mérites mieux que ça. L'orgueil. On ne t'a pas donné la place ou le respect que tu méritais, tu vois. J'ai mis la cuisine, mais ça pourrait être le garage, ça pourrait être lors d'un événement de l'Église, peu importe, le projet de l'école du dimanche, peu importe, là. Il y a un domaine où ce que l'orgueil peut sortir. Tu es orgueilleux dans ce domaine-là. J'ouvre une parenthèse. Nous, les pasteurs, leaders de l'Église, on entend assez souvent à travers les années la plainte « je ne trouve pas ma place dans l'Église. On ne me laisse pas servir au niveau de mes capacités ou les dons. » Et bien souvent, les gens qui vont prononcer ces paroles, pas longtemps après, vont quitter l'Église bien souvent en claquant la porte. En tant que leader, on ne veut certainement pas frustrer les gens ou les empêcher de servir dans l'Église. Et on se doit de s'examiner nous-mêmes devant Dieu pour voir si tel est le cas. C'est possible. Par contre, la personne qui prononce ces paroles-là est trop souvent animée de l'orgueil et souvent même sans s'en rendre compte. Servir dans l'Église ou n'importe où n'est pas un droit, c'est un privilège. C'est la réponse d'un cœur humble et reconnaissant envers Dieu. Et ce cœur-là va chercher à servir humblement, peu importe où. Et ne va pas insister qu'on le reconnaisse à sa juste valeur, voyez-vous? Je ferme la parenthèse. Je vous rappelle qu'on est en train d'examiner la source et les dangers de l'ingratitude, qui est l'opposé de la reconnaissance. Quels sont les dangers de l'ingratitude? Premièrement, s'éloigner de Dieu. L'ingratitude nous éloigne inévitablement de Dieu. On l'a vu dans Romains 1. On l'a vu la progression vers les enfers, si on peut, vous me permettez l'expression, de la race humaine à partir du verset 18 qu'on vient de lire, où ce que l'homme, l'être humain, refuse d'honorer Dieu, refuse de rendre grâce à Dieu, et qu'est-ce qui se passe? Il s'éloigne de plus en plus de Dieu. L'éloignement inévitable de Dieu. Si ce n'est pas suffisant comme danger, alors qu'est-ce qui le serait? S'éloigner de Dieu. La source de lumière, de vie, de bonté, de salut, de protection. Lorsque tu t'éloignes de Dieu, tu te retrouves sur un autre terrain, le terrain de l'ennemi juré de Dieu qui s'appelle Satan. Lui a décidé, il y a très longtemps, de se révolter contre Dieu. Il ne reconnaît absolument pas la bonté de Dieu. Il l'accuse de tous les torts. Lorsque tu vis ta vie dans l'ingratitude, tu te laisses emporter sur son terrain, à lui, et tu deviens vulnérable à ses attaques, à ses mensonges. Son but est de te voler ta joie, ta paix, de détruire ta vie et ultimement de te l'enlever complètement. Ça va loin. Ça va loin. Oui, Jean-Claude?
L'orgueil, c'est ce qui nous empêche de
Exact. Voilà. Exactement. Bien dit, Jean-Claude. Oui, c'est que l'orgueil, c'est le péché que Satan avait dans son cœur qui l'a conduit à s'éloigner de Dieu, à se révolter contre Dieu, et qui a infecté la race humaine avec Adam. Et donc, c'est impossible pour aucun de nous, être humain qui naît sur cette terre, de ne pas être pogné avec, si vous voulez, l'orgueil. C'est impossible. Ce n'est pas sans remède, par contre, grâce à l'Évangile de Jésus-Christ. Mais lorsque tu te laisses emporter par l'orgueil et l'ingratitude, tu glisses sur le terrain de Satan et tu deviens vulnérable à ses attaques, à ses mensonges et à beaucoup d'autres péchés. L'ingratitude t'expose à d'autres péchés, puisque si tu n'as pas reçu ce que tu méritais, tu vas chercher à combler ton cœur avec d'autres choses. Okay? Ça, c'est un processus qui nous caractérise en tant qu'être humain. Je vais répéter. L'ingratitude va t'exposer à glisser dans d'autres péchés parce que ton cœur n'a pas reçu ce que tu considères qu'il méritait. Fait que là, tu vas essayer de combler ton cœur avec d'autres choses. Tu vois-tu comment ça t'amène à d'autres péchés? J'ai dit que j'allais parler de d'autres voyages vélo. En 2017, on était en voyage vélo. C'était moi le leader de notre quatuor, comme les autres années d'avant. C'était notre quatrième année de rouler en quatuor. Et tout comme les autres années, je me limitais pour m'ajuster à la vitesse des autres, et c'était correct. Mais cette année-là, tout au long du voyage, même si je limitais beaucoup ma vitesse pour accommoder notre ami qui roulait moins vite, ce qui se passait le plus souvent, c'est que je me retrouvais seul en avant, car Lorraine roulait toujours derrière son ami, ne voulait pas la dépasser, et donc elle restait avec son ami, et moi, je me retrouvais tout seul en avant. Et là, après quelques journées, je commençais à expérimenter la frustration, parce que je me suis mis à dire, c'est quoi ce voyage-là? Je me limite beaucoup, au max, et malgré ça, le groupe ne me suit pas, et ma femme est avec son ami, et je suis en train de faire le voyage tout seul. C'est pas ça que j'ai voulu, hein? Comment ça se fait que je ne fais pas le voyage avec ma femme? Je suis en train de faire le voyage tout seul. Là, vous allez dire, Brian, ouais, t'es trop fort, puis calme-toi. Écoute, je me suis calmé beaucoup, là, beaucoup, là, OK? Normalement, là, je serais capable de rouler à 32, 33, 34, 35. Et là, je roulais à 22, OK? À 22, puis ça ne suivait pas encore. Là, demandez-moi pas d'aller moins vite que ça, là, c'est, je vais marcher à côté de mon vélo. L'avant-dernière journée du voyage, la chose a fait explosion dans mon cœur. Je me limitais encore beaucoup et je m'attendais que les autres me suivent car on avait déjà roulé à ces vitesses-là en plus, et même plus que ça. Mais là, notre ami ne suivait pas du tout et donc les autres en arrière non plus. Et je me retrouvais encore tout seul en avant. J'arrête, je me détourne, j'ai dit « j'attends », j'ai dit « est-ce que je roule trop vite? » « Non, non. » « Ah, OK. » Bon. Fait que je me suis dit, elle va comprendre de rouler un petit peu plus vite, puis de, mais non. Alors là, j'ai vraiment réagi dans mon cœur, j'en avais assez. J'étais fru, j'étais vraiment déstabilisé. À l'arrivée à la petite ville de destination, j'ai calé ma bière beaucoup trop vite. J'en ai pris une autre. Et j'étais fru et je m'en foutais des autres, et là, la tête commence à me tourner. Mais j'allais m'en permettre parce que je n'avais pas été respecté des autres et tous mes efforts pour plaire aux autres, ils n'ont rien donné, rien en retour. J'avais vécu une journée de merde, selon moi, et je méritais mieux que ça. Là, on s'est échangé, on s'est promené avec nos amis en ville, mais je ne parlais pas, je me retirais de la conversion totalement, j'étais complètement désengagé. Pensez-vous que dans cette condition de cœur, j'étais en train de voir toutes les bontés de Dieu à mon égard? Impossible. Impossible. Mais voyez-vous la progression dans mon cœur? Moi, je me limite, je fais des efforts, je fais ça pour les autres. Mais là, moi, je me retrouve tout seul. C'est pas vrai, c'est pas bien, c'est pas juste, comment ça se fait? Là, j'ai pas ce que j'ai veux, je veux. Et là, l'ingratitude embarque. Et là, l'ingratitude m'expose à tomber dans d'autres péchés parce que j'ai pas reçu ce que je voulais, ce que je méritais. Comprenez l'idée? J'étais complètement aveugle à tous les bienfaits de Dieu autour de moi. Avoir le temps et les moyens de faire un voyage. Être en santé. Être en présence de mon épouse chérie, même si ce n'était pas toujours comme je voulais. Faire un voyage avec mes amis. Voir des belles choses. Visiter des sites intéressants. Manger et boire des choses variées et délicieuses. Jouir de la protection de Dieu sur la route. Sans parler de toutes les bénédictions d'être connu de Dieu, de lui appartenir. Tout ça, c'est zéro. Pourquoi? Parce que l'ingratitude née de l'orgueil nous aveugle aux bontés de Dieu. Parce que l'ingratitude et la reconnaissance ne peuvent pas coexister dans le cœur humain. Elles sont mutuellement exclusives. Et l'ingratitude née de l'orgueil ouvre la porte à toutes sortes d'autres péchés, comme j'ai dit. Heureusement, Dieu ne m'a pas laissé là. Oui, Lorraine? Oui, oui. Ben, l'égoïsme, l'orgueil, c'est très, très proche, hein? Très proche. Oui. Oui. L'orgueil nous amène à être centré sur ce qu'on vit, nous. L'orgueil peut se définir comme se voir important, plus important que les autres. L'égoïsme, d'être centré sur nous. Alors, les deux sont pratiquement... inséparable. OK? Merci, chérie. Bon point. Puis, la prochaine fois, roule plus vite. OK? Heureusement que Dieu ne m'a pas laissé là. L'Esprit de Dieu me dit, « Qu'est-ce que tu fais là, Brian? Tu es sur le bord de te saouler, chose que tu n'as jamais faite de ta vie et que tu sais est incompatible d'être rempli de l'Esprit. » T'es sombré dans le marais de l'amertume et tu te coupes de ceux que j'aime et dont j'ai été envoyé pour apporter ma lumière et ma vie. » Madame de Mos, qui a écrit le livre « Choisir la reconnaissance », qui a beaucoup d'expérience dans le counseling, décrit bien ce phénomène dans son volume. Elle dit qu'elle a vu très souvent des gens qui nourrissent l'ingratitude, qui nourrissent l'amertume, tomber dans l'immoralité sexuelle par suite de nourrir ces pensées-là. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, je n'ai pas eu ce qui revenait. Je n'ai pas eu ce que je méritais. Fait que là, je vais combler mon cœur ailleurs. Je vais m'en permettre ailleurs. La pornographie, beaucoup, c'est ça, là. Tu vis une situation, tu n'es pas content, tu n'as pas eu ce que ton cœur... Qu'est-ce que ça fait? Des hommes se tournent vers la pornographie. Et là, ah, OK, là, je suis accepté. C'est comme, c'est une illusion, là. C'est une illusion, là. Mais je vais te donner, moi, ce que tu veux. Hein? Tiens, tu veux ça, je te donne ça. Ça ne règle rien. Ça nous amène à être captifs, à être esclaves, que ce soit ça ou d'autres choses. Mais tu vas peut-être te poser la question, tout comme moi. Comment concilier ça? Voici la phrase sommaire en passant. Je vais juste vous le dire, j'aurais dû le dire avant. Contrairement à la reconnaissance qui jaillit d'un cœur humble, l'ingratitude prend racine dans un cœur orgueilleux, nous éloignant de Dieu et nous exposant à toutes sortes d'autres vices. OK. Mais comment concilier ça avec... ce qu'on lit dans les psaumes, par exemple, lorsque David se plaint ouvertement à Dieu. Hein? Comment se fait-il que Dieu ne lui a pas servi le même remède que le peuple dans le désert? Comment David, par exemple, dans le psaume 55, verset 18, va dire « Le soir, le matin, à midi, je me répands en plainte et en gémissement. » Wow! Trois fois par jour! Ou encore, dans le psaume 141, verset 1 et 2, David dit « À pleine voix, je crie vers l'Éternel. À pleine voix, je supplie l'Éternel. Et devant lui, je me répands en plainte. En sa présence, j'expose ma détresse. » Comment concilier les deux choses? Le peuple qui se plaint dans le désert, l'ingratitude que Dieu décrit et condamne dans Romains 1, et David qui se plaint ouvertement dans les psaumes, et d'autres personnes, d'autres prophètes, on voit, Jérémie par exemple. Comment ça marche, ça? C'était pas son mode de vie, OK, peut-être. Mais si on lit les psaumes, on voit qu'il se plaint souvent. Il se plaint souvent, puis là, il dit « soir, matin et midi, je me répands en plainte, en gémissement. » Je crois que tout est dans l'attitude du cœur, bien-aimé. C'est vrai que quand on passe à travers les psaumes et certains livres des prophètes, on constate qu'il y a des gens qui se plaignent à Dieu. Mais ce n'est pas dans le sens d'en vouloir à Dieu parce qu'ils pensaient mériter mieux. OK? Ça, c'est la grosse distinction, là. C'est ça, exactement. C'est pas par orgueil. C'est comme un enfant qui tombe et qui va se lamenter à sa mère. C'est pas pour l'accuser, c'est pour être consolé. Le but n'est pas le même. C'est dans le cœur que ça se joue. C'est la même plainte, mais pas avec la même attitude. Un est né de l'orgueil, comme dit Rémi, l'autre d'un désir d'être consolé. C'est pas pareil. Il y a un monde de différence. Dans l'épisode du voyage vélo que je vous ai raconté tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ce qui s'est passé, c'est que je me suis tourné vers Dieu pour lui demander pardon de mon attitude, mais aussi pour lui exposer comment je me sentais intérieurement. Pas respecté, pas considéré, pas aimé. Et je demandais que lui console mon cœur. J'ai demandé comment lui me voyait. Il m'a rassuré que j'étais important pour lui, que lui me respectait et que j'étais son fils bien-aimé, que je devais trouver ma paix, ma joie et ma satisfaction en lui. Ça a restauré mon cœur. Et là, au souper, j'ai eu l'occasion de parler avec des gens du Seigneur parce qu'ils m'avaient restauré. Alors que dans l'après-midi, j'étais complètement coupé, désengagé, retiré. Lorsque tu vis des choses désagréables, des situations contrariantes, Dieu t'invite à aller vers lui. Il t'invite à venir les lui exposer et trouver consolation dans ses bras. La différence entre ça, d'aller se plaindre à Dieu, dire « Seigneur, moi je trouve que c'est injuste ce que j'ai vécu aujourd'hui, j'ai fait des efforts, personne ne m'a considéré, on m'a laissé tout seul, je vis de la solitude, je suis fru, je me tourne à toi, Seigneur. » OK? Ça, et de rester les bras croisés dans le coin, puis dire « ben j'en veux à tout le monde, puis j'en veux finalement à Dieu. » Je ne m'en vais pas, j'ai le dos tourné contre Dieu. Donc, je me plains, mais je refuse d'être consolé. Avez-vous déjà vu ça, un enfant qui fait ça? Oui, hein? Il boude, c'est ça, c'est ce que je faisais, je boudais. C'est exactement ça. Donc, Dieu ne veut pas, il veut avoir notre cœur. Donc, ce que j'ai dit au début, je le répète, hein? C'est pas que l'enfant qui boude, ton petit enfant dans ton cœur qui boude parce qu'il n'est pas content, que là, on le force à dire... On le force à dire « OK, merci, merci Seigneur. » Non, non, c'est pas ça. Dieu l'invite à se tourner pour se faire consoler. Dieu veut qu'on s'exprime. On le voit dans les psaumes. Dieu, David exprime son cœur. Il dit des choses que vraiment, là, tu dis « Tabarnouche, je ne suis pas sûr que j'oserais dire ça à Dieu. Dieu, tu m'as oublié. Dieu, jusqu'à temps que tu vas me négliger, c'est plein de choses comme ça, là. Mais Dieu nous invite à trouver consolation, à répandre nos cœurs devant lui, plutôt que de se retirer dans un coin, les bras croisés, et refuser d'aller vers lui. Parce que tu lui en veux pour la situation. Lorsqu'on va vers lui, exposant notre souffrance et confessant notre mauvaise attitude, il nous comble de sa paix, de sa joie, et on recommence à être capable de voir toutes les bontés dont on n'est pas digne. Cette année, en voyage vélo, je pogne la COVID en plein milieu du voyage. Oh! Qu'est-ce qui va arriver? La COVID. Fais le test positif en 10 secondes. As-tu un autre test, Lorraine? On va refaire le test, ça se peut pas. Fais le test positif en 7 secondes. Là, bon, ça va vite dans la tête, hein? J'ai été obligé de rester dans la chambre d'hôtel pour 5 jours pendant que le groupe continue le voyage. Peut-être que je vais être obligé de retourner à Lisbonne pour attendre le groupe. De toute façon, là, je suis coupé. Je ne serai pas en contact avec les gens parce que je ne veux pas les contaminer. Ah, c'est le désastre, là. C'est le désastre. Là, je ne suis pas content, là. Hein? Je ne suis pas content. Mais le Seigneur... en train de lire le livre « Choisir la reconnaissance ». Puis, dans ce livre-là, on va le voir plus tard aussi, mais je veux le dire maintenant, c'est que dans toute cette situation que tu trouves vraiment difficile ou pas juste ou insupportable, même dans ces situations-là, il y a plein de choses que tu peux rendre grâce à Dieu. Plein de choses. J'ai écrit « Mes enfants, j'ai pogné la COVID ». Mais malgré ça, je remercie le Seigneur d'être en voyage avec ma femme, d'être dans un milieu sécuritaire. Je me rappelle pas, j'ai 5 choses que j'ai dit que j'étais vraiment reconnaissant pour ces choses-là. Et je ne suis pas resté dans l'abattement, et le Seigneur a pris soin de nous. Et on a pu continuer le voyage. Madame Nancy DeMoss, l'auteur du volume « Choisir la reconnaissance », raconte dans son volume que son père, Art DeMoss, avait l'habitude de répondre à la question « Comment ça va? » par une phrase qui allait bien au-delà de la réponse habituelle, car il répondait très souvent en disant « Ça va bien, merci, mieux que je ne le mérite. » Madame DeMoss nous explique que c'est parce que son papa, Art, n'oubliait jamais, et je cite, « que Dieu l'avait sauvé » et que s'il avait reçu ce qu'il méritait effectivement, il aurait été complètement anéanti par la douleur. Dans sa jeunesse, mon père, dit-elle, était plutôt rebelle. Il s'était laissé entraîner par le jeu et causait des ennuis à ses parents. Mais le 13 octobre 1950, date qu'il rappelait systématiquement lorsqu'il racontait son histoire, Dieu lui a ouvert les yeux, lui a révélé Jésus-Christ, et l'a amené à la repentance et à la foi. « Je crois, dit-elle, qu'il n'a jamais pu évoquer cela sans avoir des larmes aux yeux. Je vais bien, merci, mieux que je ne le mérite. » Ça, c'est un cœur reconnaissant. Ça, c'est un cœur humble. Hein? J'ai commencé à appliquer ça dans nos jeux de cribs, Lorraine et moi. Le soir après souper, souvent, quand on a le temps, on joue un jeu de cribs. Puis là, je dis au Seigneur, « Ça se peut pas, Seigneur. Elle a toujours des bonnes mains, puis moi, j'ai de la chenoute. » Ça se peut pas. Puis là, ça, elle gagne, puis elle me bat. Toutes les séries qu'on fait, puis elle me gagne. Ça fait longtemps que je n'ai pas gagné de série. Puis là, je dis ça. Fait que là, cette semaine, j'ai commencé à dire, tu as 20 points, c'est beau, chérie. Puis moi, j'ai 6 points. C'est plus que je mérite. Mais pour jouer dans sa tête, j'ai dit, c'est bon, c'est ce que tu mérites. C'est bon, tu mérites. Tu mérites ça, chérie. J'essaie de jouer dans sa tête un peu. Pas fin, hein? Ça marche pas, hein? C'est de l'orgueil, hein? L'orgueil caché. Ouais. Souvent, Lorraine et moi, depuis quelques années, pour se rappeler d'être reconnaissant, on se dit, c'est un bonus. de vivre telle affaire, là, c'est un bonus. Tout est un bonus. Tout est un bonus. À partir du moment que tu vis et tu respires, tout est un bonus, tout est un don. Ça change la perspective. Oui, tout est un cadeau. L'humilité, la terre fertile d'où jaillit la reconnaissance. Tournez avec moi dans Psaume pour une dernière petite lecture. Psaume 103, versets 1 à 6. De David. J'aime ce psaume, le psaume 103. Que tout mon être loue l'Éternel, ou mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, ou que tout mon être loue l'Éternel, le remercie, sans oublier aucun de ses bienfaits. Et voilà, il va énumérer quelques bienfaits de Dieu. Premièrement, c'est lui qui pardonne tous tes péchés. Déjà là, c'est incroyable, hein? C'est un bonus. Déjà, c'est une grâce. C'est lui qui pardonne. Combien de péchés tu fais dans ta vie, dans une journée? Et c'est lui qui pardonne tous ces péchés-là. C'est un don. C'est une grâce. C'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Tombé en vélo, j'ai laissé un peu de peau en Portugal, ça guérit. C'est une grâce. C'est une grâce, c'est guéri. Merci, merci Seigneur. En plus, c'était de ma faute, je voulais aller trop vite dans une courbe. Encore la vitesse. La vitesse tue, hein? C'est lui qui arrache ta vie de la fosse. Et dans la version sommaire, qui t'arrache à la tombe. Ça veut dire qu'il sauve ta vie physique, qu'il te protège. Combien de fois le Seigneur m'a protégé? C'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde, ou de tendresse et d'amour. Savais-tu que tu avais sur ta tête, si tu es un enfant de Dieu, une couronne? Une couronne de bonté et de miséricorde que Dieu a mis sur ta tête. C'est une perspective, là. Une couronne de bonté et de tendresse et d'amour. C'est lui qui rassasie ta vie de bienfaits, qui te comble de bonheur tout au long de ton existence, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Et ça continue. Mon âme bénit l'Éternel. David, il s'encourage à bénir l'Éternel, à rendre grâce à Dieu. Il cultive la reconnaissance. C'est quelque chose qu'on veut essayer de faire dans cette série, c'est de s'encourager à cultiver la reconnaissance. Amen. Amen. Et j'aimerais prendre un temps, quelques minutes, comme on a vu plusieurs fois. Dieu s'est révélé à nous dans sa parole. La réponse, hein, c'est la reconnaissance, l'adoration, la louange, la confession, la repentance. Peut-être que si le Seigneur a touché ton cœur ce matin, tu as vu, ouais, je suis tombé dans l'ingratitude ou je ne suis pas reconnaissant ou je n'ai pas porté attention à cultiver la reconnaissance. Bien, peut-être qu'il y a une confession à faire ce matin. Peut-être qu'il y a une repentance, ça veut dire se détourner de ça et vouloir se tourner vers un engagement. Fait que, ce qu'on va faire, on va prendre deux petites minutes par section. Fait que la révélation, ça, c'est fait. Deux petites minutes dans la prière. Je vous encourage des courtes prières d'adoration, de louange. Okay? Après ça, deux autres minutes pour la confession, la repentance, et après ça, deux autres minutes pour l'engagement. Pour ceux qui veulent, ce n'est pas forcé, OK? Si le Saint-Esprit a touché votre cœur et vous pousse à quelque chose dans ces trois éléments-là, alors faites-le, dites-le, priez-le, puis ça va nous encourager. Puis ça va vous aider aussi d'avoir dit ça à voix haute, de l'avoir prié à voix haute. Oui, Jean-Claude?
Qui nous ont été donnés OK.
Ça va dans le même sens. C'est la suite logique de ce que tu viens de nous enseigner merveilleusement. C'est, le premier exemple, c'est M. Gabriel Côte-Noir. Un jour, il était dans son bureau, puis il pleurait parce qu'il avait perdu un œil et le diagnostic, était définitif. C'était irréversible. Il pleurait. Mais lui, il avait un verset auquel il s'était attaché tout le long de sa vie. C'était 1 Corinthiens 5:20. « Rendez grâce pour toute chose à Dieu. » Alors, il dit, « J'ai prêché ça toute ma vie. » Et là, il s'est rendu compte qu'il pleurait parce qu'il avait perdu un œil. Quand, après sa réflexion, il a cessé de pleurer, il a rendu grâce à Dieu parce qu'il lui en restait un autre. Ça, c'est M. Gabriel Côte-Noir, hein? Un cœur reconnaissant. Et l'autre exemple, M. Jacques Alexeignan, ici même. Un jour, il dit, « Quand je ne sais plus quoi faire, quand je ne sais plus quoi penser dans l'épreuve, même pour d'autres qui viennent me demander, il dit, c'est toujours le verset 7 du psaume 37. « Fais silence devant l'Éternel. » Pourquoi? Parce que quand tu fais silence, tu ne murmures pas, qui est le contraire de l'adoration. Mmh. « Espère en lui. » Nous sommes l'Église de l'espérance.
Mmh. Merci beaucoup, Jean-Claude. Excellent. Excellent. Puis en parlant avec Lorraine, en montant dans l'auto ce matin, on a réalisé qu'on a une culture, entre guillemets, de se plaindre. On est vraiment, souvent on traîne une mauvaise habitude de notre vie passée, de se plaindre de tout. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on se plaint. Puis dans l'Église aussi. Fait qu'il y aurait quelque chose là à confesser à Dieu puis à se repentir, n'est-ce pas? Parce que c'est pas ça que Dieu cherche dans notre cœur. Merci pour ces beaux exemples, Jean-Claude, c'est super. Fait que je vous laisse l'opportunité, 2 minutes, pour adorer Dieu, pour bénir Dieu, pour le louer. Bénis l'Éternel, mon âme, OK? 2 minutes, puis après ça, 2 minutes dans la confession, 2 minutes dans l'engagement. Ça marche? On y va?